7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comment élever ses enfants après une séparation? En France, un couple sur deux divorce. Avec la rupture viennent de nombreuses questions. Fait-on le bon choix? Comment les enfants vont-ils le vivre? Et pour ces parents qui se séparent, il faut digérer la rupture, le sentiment d'abandon qui peut en découler. Il faut aussi renoncer au rêve de la famille idéale et composer avec cette nouvelle famille qui existe malgré tout. Alors, quelle relation entretenir avec son ex-compagnon ou son ex-compagne pour le bien des enfants, qui reste la priorité? Et comment les protéger d'éventuels conflits à venir et des rancœurs. Adieu amants, bonjour parents, c'est ce que vous écrivez Sabrina Dodinechin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice familiale à Paris et vous publiez le livre « Rester parents après la séparation, les clés de la coparentalité positive ». Avec nous également depuis les studios d'Aix-en-Provence que l'on remercie, le sociologue Gérard Nérand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'université Paul Sabatier Toulouse 3 et vous travaillez sur des questions de la famille, de la séparation dans le couple et de la coparentalité. Et nous serons en ligne un peu plus tard dans l'émission avec Frédéric Bianco. Il a lancé un site de rencontres particulier puisque c'est un site qui vous aide à trouver le père ou la mère de votre futur enfant sans forcément que vous vous mettiez en couple avec cette personne. Alors les voisins, les voisines, vous êtes-vous séparés de votre compagne ou de votre compagnon? Si oui, comment partagez-vous la garde de vos enfants? Qui s'en occupe? Comment le vivez-vous? Quelle relation avez-vous avec eux, hein, les enfants, et puis avec votre ex-conjoint ou conjointe? Et si vous avez grandi avec des parents séparés, les voisins, racontez-nous. On vous attend au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et comme toujours, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et puis sur WhatsApp. Nous y sommes aussi.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Sabrina Dodinechin, en France, selon l'INSEE, un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée. Les séparations ne sont plus une exception. Pour autant, elles ne sont pas plus faciles à vivre pour les parents.
Non, en effet, c'est quelque chose de compliqué parce que c'est vrai que lorsqu'on se met en couple et qu'on décide d'avoir des enfants, donc de créer une famille, lorsque on se sépare, c'est vraiment un échec qui est perçu pour soi. Finalement, quand on se met en couple et qu'on veut avoir des enfants, on a quand même une idée de construire quelque chose de positif, quelque chose de durable. Et à cause de cette séparation, on est obligé de se remettre en question. On a l'impression que finalement, toute notre identité propre, ce qui fait qu'on est soi-même, et part en capilotade. Et c'est vrai que c'est compliqué à vivre.
Il y a un deuil amoureux à faire.
Il y a un deuil amoureux à faire, non seulement un deuil amoureux à faire, mais un deuil tout simplement de la famille idéale, la fameuse famille ricorée que prenait la publicité. Tout à coup, effectivement, tout ça n'existe plus, il va falloir recomposer, réinventer.
Gérard Nérand se pose aussi la question de la culpabilité par rapport à l'enfant ou aux enfants pour lesquels on peut craindre les contre-coups de la rupture. Est-ce que cette culpabilité est toujours présente, hein, même s'il est devenu commun aujourd'hui de se séparer?
Oui, bien sûr, hein, la culpabilité, c'est une des grandes caractéristiques de l'après-séparation. Et ça touche tout le monde, même si, bien sûr, il y a plus de séparations aujourd'hui qui sont consensuelles. Hein, on a moins fréquemment de séparations très conflictuelles. Mais la culpabilité, évidemment, va toucher tout le monde.
Alors, on va accueillir une voisine tout de suite, Corinne, à Abidjan. Bonjour, Corinne.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Corinne.
Ok, bon, moi je suis une fille issue d'un couple divorcé et donc j'ai vu comment ça s'est passé, je m'a trimballé de famille en famille parce que mon père ne pouvait pas s'occuper de moi, donc j'étais balancée chez ses frères et sœurs. Et quand j'ai grandi, j'avais envie d'avoir une famille bien soudée, différente de celle qui a été la mienne. Et bon, je suis tombée sur quelqu'un, on a eu deux enfants malheureusement, ça s'est pas bien passé. Et puis on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, bon, comme disait l'autre, c'était vraiment un sentiment de culpabilité pour avoir échoué. Et puis je dis, mais tes enfants vont vivre pratiquement la même chose que toi, c'est pas possible, comment tu as fait pour échouer? Et après, je me suis dit, quelqu'un m'a dit, bon, faut pas te culpabiliser, tu n'es peut-être pas tombé sur la bonne personne. La personne est venue vers toi, elle t'a présenté un voile. Et derrière le voile, c'est ce que tu as vu. Donc, ne te remets pas en question tout le temps, tout le temps. C'est peut-être que l'autre en face n'est pas bien.
Et, et Corinne, quel âge avaient vos enfants quand vous êtes séparés de votre conjoint?
8 mois et 4 ans. Aujourd'hui, ils en ont, on va dire, 16. Il aura 16 ans en septembre et l'autre va avoir 12 ans en août.
Et qui les garde alors? Est-ce que c'est vous qui les gardez?
Oui, bien sûr, bien sûr. Pour avoir été trimballée de famille en famille, je ne veux pas du tout de ça pour mes enfants. Donc, je les ai gardés.
Vous dites bien sûr, mais est-ce qu'ils peuvent voir leur père? Est-ce qu'ils le voient?
Bon, au départ, lui-même, il ne voulait pas les voir, hein. Il avait décidé, il était ailleurs, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son nouveau couple, mais il ne voulait pas du tout les voir. Donc, bon, ça a posé un problème au plus grand, qui est allé à l'école, qui a dit à une de ses éducatrices qu'il vivait un drame familial. Donc, on lui a demandé qu'est-ce qui se passait. Il a dit non, mais mon papa ne me voit pas, il m'a abandonné. Et donc, on était obligé de me convoquer, c'est à l'école française à Abidjan. On dit, bon, venez. Et puis on va discuter. Donc quand je suis allée, ils m'ont dit, j'ai dit à mon enfant, bon, tu sais, tu n'es pas seule dans ce cas. Hein, je me suis un peu amusée avec lui. J'ai dit, ben, tu vois, il y a Stromae, on est nombreux comme ça. Et bon, malheureusement, le père, c'est pas un jouet de 5 millions, 10 millions, 4 millions, 1 million, je te l'aurais acheté. Mais là, s'il ne veut pas te voir, qu'est-ce que tu veux foutre avec quelqu'un comme ça? Laisse-le tomber. Et puis les gens m'ont dit, non, c'est pas comme ça. C'est, l'approche doit pas être ça. Donc, mets ton ego de côté et puis va dans l'équilibre de l'enfant. Donc, on a été obligé de recontacter le père, renouer les liens, faire en sorte qu'il ait envie de les voir.
Et aujourd'hui, vos enfants voient aussi leur père?
Ils voient leur père. Ils voient leur père. Et le grand, il m'avait dit, quand je lui disais, oui, mais s'il ne veut pas te voir, laisse-le tomber, c'est pas grave. Il m'a dit, maman, mais si c'est que ce soit un charbonnier, que ce soit un faux type, j'en ai rien à foutre, c'est mon père, je veux le voir. Mais ça m'a posé un problème de voir mon enfant souffrir comme ça. Donc, il fallait que je...
Que vous repreniez contact avec le père.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, bon, il est revenu, il les voit, mais financièrement, il ne fait rien du tout. Donc, toutes les charges sont sur moi, pèsent sur moi. Donc, je suis un peu le père et la mère, je me bats. C'est possible, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail.
Beaucoup de sacrifices de votre père, de votre part, oui, voilà. Effectivement.
Voilà, et donc, j'ai complètement mis ma vie entre parenthèses pour eux. Je m'occupe d'eux. Et je suis contente parce qu'ils sont heureux. J'arrive à les rendre heureux. On ne sent pas qu'ils ont un problème, mais pour leur équilibre aussi, ils voient leur père quand ils en ont envie. Donc, on n'a pas de... Ça va.
Merci, merci beaucoup, Corinne, pour ce témoignage. Sabrina de Dinochin, vous voulez réagir?
Oui, je trouve que... Bonjour madame, c'est une énergie absolument incroyable, effectivement. Et c'est vrai que c'est très important que les enfants puissent maintenir le lien avec le parent qu'ils ne voient pas et qu'ils comprennent qu'ils continuent à appartenir à une famille, même si, en l'occurrence, maman habite dans un endroit et papa habite dans un autre. Et ça, c'est vraiment très important pour l'équilibre, pour leur équilibre.
Gérard Néran, alors, il y a quelques chiffres qu'on peut donner à ce sujet en France. Dans 70% des cas, après la séparation d'un couple, l'enfant vit chez sa mère. Le plus souvent.
C'est exact, oui. Bon, avec la progression de la résidence alternée, aujourd'hui, il y a près de 20% des enfants qui sont dans cette double résidence et un peu plus de 10% avec le père.
Donc résidence alternée, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre en général?
Oui, une semaine ou une demi-semaine. Ça dépend un peu de l'âge. Souvent, quand c'est les ados, ça peut être 15 jours, mais plus on est jeune et plus le temps se raccourcit. En fait, la fréquence devient plus rapide. Et justement, je voulais dire que l'un des risques par rapport à la séparation et notamment par rapport à cette différence qu'il peut y avoir entre la garde chez la mère ou la garde chez le père, c'est un risque de désinvestissement par celui qui n'a pas la garde de l'enfant, du rapport à l'enfant. Et ce risque est relativement élevé parce qu'il y a une enquête qui a eu lieu il y a 10 ans en France qui montrait que 40% des pères étaient soit ne le voyaient plus du tout leur enfant quelques années après la séparation, enfin un quart d'entre eux, et 15% le voyaient rarement, donc c'est une grande proportion quand même. Et il y avait aussi 10% des mères dans cette situation. Donc c'est pas cette désaffiliation, si je puis dire, elle n'est pas seulement paternelle, elle peut être aussi maternelle, mais quand même les pères sont beaucoup plus touchés par cette situation, ne serait-ce que parce que traditionnellement, bon, c'est la mère qui doit s'occuper de l'enfant, même si les choses ont évolué. évoluer, on reste encore dans une dissymétrie importante à ce niveau.
Alors, quel impact peut avoir la séparation des parents sur les enfants ? Pour en parler, on va accueillir un voisin tout de suite.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Bonjour Clément.
Bonjour Emmanuel.
Alors c'est Charlie, mais c'est pas grave, vous êtes à Kinshasa, vous avez 21 ans, c'est pas grave, on vous écoute Clément.
Ok, merci beaucoup. Voilà, les sujets m'avaient beaucoup intéressé par rapport à cette séparation. Vraiment, c'est pas du tout bien. Moi, j'étais victime de ça à l'âge de 4 ans. Mes parents se sont séparés et vraiment, j'avais souffert. Et voilà, j'étais un peu encadré par une grand-mère. Mais en grandissant, bon, je m'étais rendu compte que je n'avais pas vraiment d'affection pour elle. Mais quand même, je pouvais quand même le voir, échanger ensemble avec lui. Mais en ce qui concerne l'affection, je n'en avais plus. Mais ces liens familiaux-là nous réunissaient toujours. Alors, c'est sur ça que je voulais au moins exhorter au moins les parents qui sont ensemble avec leurs enfants, qu'ils puissent toujours demeurer avec leurs enfants. La séparation n'est pas du tout bonne. Voilà. Ça a plus des conséquences chez les enfants.
Est-ce que ce que vous racontiez aussi, c'était qu'au moment de la séparation de vos parents, chacun voulait que vous alliez vivre chez l'autre?
Oui, bien sûr que oui. À l'âge de 4 ans, lorsqu'on est parti chez les juges, parce que leur divorce était vraiment officiel, hein, était vraiment officiel. Mm-hmm. Lorsqu'on est arrivé chez les juges, ma maman, elle voulait que j'aille, mon papa plutôt, elle voulait que je puisse rester avec lui. Et ma maman aussi, elle avait besoin de moi. Il y avait eu une bagarre d'esprit entre les deux. Ben, les juges avaient décidé que j'étais encore petit, je devrais normalement rester d'abord avec la maman pour bénéficier au moins de son affection. Ben importe, j'étais parti chez la maman, mais elle aussi n'a pas pris le temps pour s'occuper de moi. Elle m'a relâché auprès de sa mère aussi, c'est sa mère qui m'a élevé.
Et comment vous vous sentez par rapport à ça aujourd'hui?
Bon, disons que je suis un peu dérangé, parce que je n'ai pas vraiment bénéficié de l'affection de mes parents. Je suis un peu dérangé sur ça, peu importe ce lien-là, mais hein, à ce qui concerne l'affection, je ne le ressens pas du tout. Dommage que mon père aussi est parti, il est mort il y a de cela 8 ans. Ben, je suis resté avec ma mère, mais je ne sens pas du tout vraiment l'affection pour elle.
Vous vous sentez en distance avec eux. Merci beaucoup Clément pour ce témoignage, Sabrina de Dinochin. Là, on voit aussi l'impact que la séparation peut avoir sur cet enfant qui a été Clément.
Oui, c'est intéressant ce que dit Clément. Quand il dit que c'est pas bien du tout que les parents se soient séparés, pour lui, ça a été quelque chose de difficile à vivre. Et c'est vrai que quand on est dans cette question-là de savoir si on se sépare ou pas, c'est compliqué parce qu'on essaie de faire les choses bien pour les enfants. Et parfois, on se retrouve séparés alors que finalement, si on avait fait quelque chose de positif, si on avait essayé d'être plus constructif, on aurait peut-être pu éviter cet échec-là. Et ça, pour les enfants, c'est formidable quand les parents arrivent à se réconcilier, parce que ça montre bien, c'est tout ce qu'on appelle effectivement l'éducation silencieuse, ça montre bien que quand on est dans un état de conflit, on a cette capacité-là de pouvoir surmonter le conflit et se réconcilier. Et donc, autrement dit, le divorce et la séparation n'est pas une case obligatoire dans la société dans laquelle nous vivons.
Alors justement, à ce sujet, un voisin, Moustapha, nous a laissé un message sur WhatsApp.
Bonjour voisines et voisins. Je vous appelle du Sénégal, en particulier dans la ville de Mbour, tout proche de Salé. En fait, j'ai un ami qui a divorcé sa femme, et ils se sont séparés. Mais dans l'éducation des enfants, puisque c'est la mère qui bénéficie de garder les enfants, le couple a trouvé une solution. Non seulement de ne pas informer les enfants parce qu'ils sont jeunes de ce qui se passe, mais aussi ils ont décidé de rester parents dans l'éducation des enfants, à l'école, et dans la maison, en sorte que les enfants ne sont pas frustrés ni déboussolés par la situation. Et d'ailleurs même, ce qui est étonnant, si on ne te dit pas que c'est un couple séparé, tu ne peux pas le savoir.
Alors, ne rien dire à ses enfants et faire comme si de rien n'était, est-ce que cela peut être une bonne solution ?
Je pense que c'est important que les enfants sachent ce qui se passe, même s'ils n'ont pas besoin de connaître les détails quand ils sont petits. Mais en tout cas, ce que je note de très positif, c'est vraiment pouvoir faire la différence entre le lien conjugal qui n'existe plus, effectivement, et le lien parental, et là c'est le ce que dit cet auditeur, ce voisin, est très positif parce que ça montre bien que ces parents-là ont réussi à faire primer leur relation parentale qui, elle, effectivement, n'a pas à être impactée par leur dispute.
Alors j'aimerais vous lire le message de Junior qui est à Goma et qui nous dit « Mes parents ne sont pas restés parents une fois séparés, je n'ai pas reçu d'amour maternel et j'ai du mal à vivre avec une femme car pour moi, toute femme ressemble à ma maman. » Alors, il y a une question aussi que j'aimerais vous poser, Sabrina de Dinochin, c'est la question de l'âge. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge plus, où on est plus vulnérable que d'autres par rapport à cette question de la séparation de ses parents ?
Je pense qu'on est vulnérable à tous les âges, en réalité, et c'est difficile de faire une généralité. Mais c'est vrai que chaque tranche d'âge d'enfant a ses particularités. Parfois les parents pensent que c'est une bonne idée de se séparer quand l'enfant est tout petit et qu'il ne se rend pas encore compte des choses. En réalité, même si l'enfant ne parle pas, il réagit, et il réagit de façon corporelle, par exemple, quand effectivement il y a des impacts sur son sommeil, ou sur sa manière de se nourrir, ou si on voit effectivement qu'il y a une régression. Tout ça, c'est important, il faut pouvoir en tenir compte. Un petit peu plus tard, quand l'enfant grandit, il peut lui aussi se sentir culpabilisé et penser que, en fait, papa et maman se séparent parce qu'il n'a pas été sage ou parce qu'il a eu une mauvaise note à l'école. Ça peut être quelque chose d'extrêmement violent. Et c'est vrai que quand on se sépare, il est vraiment très important de pouvoir annoncer aux enfants ensemble, donc le père et la mère ensemble, pouvoir expliquer les choses, pouvoir déculpabiliser un maximum l'enfant et expliquer qu'en fait les parents ne s'entendent plus, ils vont se séparer, mais le socle parental va perdurer. Ils seront toujours là pour leurs enfants et ils pourront toujours compter sur eux.
Gérard Nérand, les séparations interviennent de plus en plus tôt dans la vie de l'enfant.
Oui, tout à fait. Actuellement, il y a beaucoup de parents qui se séparent avec des enfants jeunes, voire très jeunes. On a de plus en plus de séparations juste avant la naissance ou juste après. C'est un phénomène qui est tout à fait caractéristique de notre période contemporaine, avec des difficultés conjugales qui sont parfois provoquées par l'arrivée de l'enfant. Lorsqu'on a vécu pendant 10 ans en couple et qu'on décide d'avoir un enfant, bon, on a pris ses habitudes, on a un certain mode de vie, et l'enfant, il vient de tout chambouler. On est vraiment sorti du modèle antérieur, du modèle plus traditionnel, où lorsqu'on se mariait, on n'avait pas vécu avec son futur conjoint et l'enfant venait tout de suite. Donc on n'avait pas le temps de s'habituer à une vie de couple qui dure, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on a effectivement ces séparations précoces qui sont de plus en plus fréquentes.
Avant, on attendait parfois que l'enfant ait grandi, soit devenu un adolescent, voire un adulte, en fait, pour se séparer. Alors on va voir que le rôle du parent peut changer aussi après la séparation. Tout de suite, à suivre, reportage dans une famille où on partage une passion, vous allez comprendre laquelle.
Ça, c'est le petit concert qu'on a fait à la fin de l'année. Donc, c'est mon petit, Nicolo, qui a 5 ans. Et c'était un moment très émouvant parce que voilà, on joue ensemble. Moi, je suis au piano et lui, il est au violon. Le morceau, il est très très difficile, du coup, mais il se débrouille très bien. Voilà.
On entend Andrea, mélomane italien, père de 39 ans. Il vit à Paris avec ses deux enfants, Nicolo, 5 ans, et Raphaël, 9 ans. Il nous conte l'histoire de sa petite famille au micro d'Alice Milo.
J'ai rencontré la maman de mes enfants au Japon en 2006 pendant un festival de musique. Et moi, je suis pianiste, elle est violoncelliste. Moi, je suis italien et mon ex était française. Et puis, on a décidé de vivre ensemble. Et après 2 ans, le premier bébé est arrivé. Donc, c'était le 2009 et le deuxième bébé en 2013. Et puis, en 2014, on s'est séparés. Voilà, ça peut arriver. Elle a connu quelqu'un d'autre. Dans un premier temps, mon ex est parti en Normandie, à 300 km de distance de Paris, avec les enfants.
Et vous étiez d'accord avec ça ?
Je n'étais pas d'accord, mais je voulais pas. Enfin, je savais pas non plus quoi faire. C'est-à-dire, je pouvais pas faire un acte de violence en allant reprendre les enfants. Mais j'ai réalisé que moi, d'une part, je pouvais pas vivre loin de mes enfants parce que c'était trop douloureux. de ne pas les voir grandir tous les jours. Donc, du coup, on s'est battu assez durement. Chacun a fait ses propositions au juge. Et finalement, le juge, moi, j'étais très heureux parce qu'il a... Il a accepté ma proposition.
C'est vous qui avez obtenu la garde principale de vos enfants ?
Oui, j'avais demandé d'avoir les enfants pendant tous les jours scolaires et laisser toutes les vacances, sauf 3 semaines pendant les vacances d'été, à la mère. Ah, évidemment, enfin, l'organisation qu'on a quand on est en couple et l'organisation qu'on a quand on est tout seul avec deux enfants est forcément différente. Il faut dire que quand on est venu à Paris pour mon travail, mon ex travaillait très peu, un jour par semaine. C'était un peu un choix parce qu'on ne voulait pas confier les enfants à des assistants maternels ou à des babysitters. Donc, il passait beaucoup de temps avec les enfants. Moi, j'avais... Que comme j'ai travaillé, toutes les tâches liées à la gestion des enfants étaient plutôt réservées à la maman. Alors certains pourraient dire que c'est un réflexe machiste italien, mais c'est, je pense pas, c'est pas du tout ça, c'est juste... Oui, je trouve que dans un couple, nous les papas, on a tendance à seconder les mamans. J'avais pas l'impression d'être, si je peux dire, entre guillemets, les chefs des enfants. C'était la mère qui décidait quand c'était l'heure de manger, quand c'était l'heure de les mettre au lit. Après, moi, je connaissais les horaires, donc on faisait... Mais voilà, j'avais l'impression que c'était elle qui donnait les rythmes aux enfants. Et moi, j'ai commencé à me sentir plus papa, effectivement, quand j'ai pu passer beaucoup de temps tout seul avec les enfants. J'ai senti un lien plus fort. Pour moi, ça a été positif parce que c'est vrai qu'il demande plus de travail, plus d'organisation. Mais au final, et c'est ça qui a fait grandir ma confiance et mon sens des responsabilités avec les enfants. Quand la maman est à 300 km de distance pendant une ou plusieurs semaines, il y a des décisions que forcément on ne peut pas partager avec elle. Et donc, je suis obligé de les prendre. Parce que c'est vrai que quand j'avais les enfants tout seuls, ils avaient 2 et 5 ans, c'était vraiment compliqué. Mais chaque jour qui passait, j'avais l'impression que ça devenait de plus en plus facile. Moi, j'étais mieux organisé, les enfants ils étaient plus autonomes, donc les choses devenaient de plus en plus faciles. Et aujourd'hui, on a tout un protocole quand on revient de l'école, on a voilà, les douches, les pyjamas, la préparation en cuisine, etc., qui est... comment dire, tellement où il est, ça marche tellement bien qu'il nous laisse aussi plus de temps libre pour faire des activités. Et je dois dire que les enfants m'ont beaucoup rassuré et j'ai pu vérifier que voilà, la confiance était bien là.
Sabrina de Dinochin, comment vous réagissez à l'écoute de ce témoignage d'un père qui est fier, on l'entend, d'avoir dans ces circonstances conquis son rôle de père ?
Oui, c'est vrai que c'est une revendication de plus en plus fréquente de pères de pouvoir s'occuper de leurs enfants. On a dit tout à l'heure que la résidence alternée, les chiffres de la résidence alternée augmentaient.
Donc dans 20% des cas
en France. Et c'est vrai que c'est une vraie revendication des pères. Parce que quand ils avaient traditionnellement les enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances, ils souffraient énormément d'être le papa loisir. Et pour eux, c'est très important d'être impliqués dans la vie de leurs enfants, de pouvoir aller les chercher à l'école, de leur faire faire leurs devoirs, etc. Et cela, même si, lorsque le couple était uni, ils laissaient ça à leur femme ou à une babysitter, etc.
Gérard Néran, vous êtes d'accord ?
Oui, je trouve très intéressant ce témoignage parce qu'il montre bien que dans la vie commune, lorsqu'on n'est pas séparé, la tendance est quand même, compte tenu du poids des traditions et puis du fait aussi, bien sûr, que la mère, c'est elle qui porte l'enfant. Hein, et donc, la tendance est à ce que ce soit les mamans qui s'occupent le plus des enfants et surtout qui gèrent la relation aux enfants. Ça a été très, très clair. La difficulté d'une parentalité effective par les deux parents quand ils sont ensemble est manifeste. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois, après la séparation, lorsque il y a une résidence alternée, voire éventuellement si c'est la résidence chez le père va s'impliquer beaucoup plus par rapport à l'éducation de l'enfant, il y est forcé de toute façon, et va se rapprocher d'eux d'une façon importante. Donc c'est intéressant de voir à quel point les circonstances peuvent influer dans un sens ou dans l'autre.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez pour vos témoignages. Si vous êtes vous-même parents et séparés, quelle relation entretenez-vous avec votre ex-époux ou épouse? Comment gérez-vous la garde des enfants? C'est le moment aussi de demander conseil à nos invités. Un seul numéro pour cela, le 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Mais d'abord, Children, c'est signé Listen B sur RFI.
Everybody's on the run. So satisfy your hungry heart. Give me something to hold on. Here today, tomorrow's gone. We're just children, roaming where we don't belong. We're just children, waiting for the future to come. We're just children, roaming where we don't belong. We're just children. Going nowhere, forever young. Spinning circles around the sun. There ain't nothing going on. Standing on the tip of your tongue. We're just children, roaming where we don't belong. We're just children, waiting for the future to come. We're just children, roaming where we don't belong. We're just children.
Milliards de voisins, comment se remettre d'une rupture amoureuse et comment ne pas la faire peser sur ses enfants si l'on en a? Parfois, la coexistence pacifique s'avère nécessaire. Nos invités du jour pour en parler, Sabrina de Dinechin, mais de médiatrice familiale qui accompagne de nombreux parents à Paris et les aide justement à construire une relation apaisée après leur séparation. Et Gérard Nérand, sociologue, professeur émérite à l'université Paul Sabatier, Toulouse. Alors, nous sommes en ligne avec une voisine, Kelly à Bujumbura, au Burundi. Bonjour Kelly.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute Kelly.
Moi j'ai... En fait, c'est un peu comme les autres auditrices qui ont réagi. Pour moi, il était clair dès le départ, quand voilà, notre relation commençait à battre de l'aile, j'avais peur pour mon enfant. Je me disais, il ne doit pas en souffrir. Et j'avais peur parce que tout ce qu'on lit sur les enfants dont l'un des parents est parti, tout ce qu'ils peuvent développer, moi je me disais, voilà, autant faire ce peu vraiment, je ne veux pas faire porter ça à mon fils. Je vais avoir de bonnes relations avec son papa, mais malheureusement, lui, il n'entendait pas de cette oreille. Et il est parti, il s'impliquait pas, jusqu'à présent d'ailleurs. Mais je me suis dit... il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe autour de l'enfant pour que demain, il puisse pas dire « oui, j'ai érigé des barrières ». Donc, systématiquement, je le mettais au courant de toutes les grandes décisions pour l'enfant. Et des fois, même, je lui demandais qu'est-ce qu'il en pensait, même s'il n'en avait rien à faire. Il ne répondait presque pas. Et parce que pour moi, je me disais, c'est un enfant, il doit avoir, je voulais qu'il soit présent dans la vie de l'enfant.
Que l'enfant ait un père.
voilà, qu'il ait un père, une référence masculine. Et voilà, je me battais un peu pour ça, mais finalement après je me suis rendu compte que voilà, j'étais en train de suivre une ombre quoi. Et en même temps, j'avais autour de moi des personnes qui pouvaient jouer le rôle du père, donc notamment mon père à moi, donc le grand-père de l'enfant, qui s'investissait aussi pour ça, pour que l'enfant ne manque pas de l'affection paternelle. Donc après, je me suis rendu compte que voilà, je pouvais travailler autrement sur ça. Et depuis quelques temps, voilà, l'enfant a grandi, il a grandi en temps, il a 11 ans maintenant. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, voilà, qui l'appelle papa. Mmh. Et bon, son propre père, il l'appelle par son nom, quoi, il l'appelle Papatel, pour vraiment faire la différence.
Mais donc il voit encore son père de temps en temps?
Non, il a juste un souvenir de son père et je n'ai pas voulu casser ce souvenir-là. C'était clair pour mon fils dès que voilà, j'ai connu mon mari maintenant. Il savait que voilà, il y a maman avec son amoureux et il y a mon papa qui est quelque part. Mmh. Donc c'était clair. Oui, oui. Donc, on n'a jamais eu une vraie conversation sur pourquoi papa n'est pas là. Mais pour lui, il a toujours su que son papa était quelque part et qu'il travaillait, qu'il n'a pas le temps. Et c'était tant mieux pour moi aussi que l'enfant ne dramatise pas sur l'absence de son père.
Et pour vous, mais c'était quand même important de laisser la porte ouverte, en fait, au retour de son père dans sa vie.
Absolument. Absolument, parce que je suis consciente qu'à un moment ou un autre, l'enfant va chercher d'où, quelles sont ses origines paternelles. Et malheureusement pour moi aussi, on n'est pas du même pays, son papa et moi. Son papa, il est du Bénin. Et voilà, je ne connais pas le pays et je n'ai pas aussi eu des relations avec la famille paternelle de mon fils. Donc récemment, j'ai trouvé un des oncles de mon fils. Je me suis présentée, bon, ce qui n'est pas bon, mais je me suis présentée pour lui dire, voilà, moi je suis tel, l'enfant de votre neveu, l'enfant que j'ai eu avec votre frère. Voilà, nous sommes à tel endroit, si jamais vous passez par là, voilà, l'enfant est là. Et si jamais l'enfant venait là-bas, en tout cas, accueillez-le, c'est votre enfant. Donc, pour moi, c'était vraiment, je veux éviter à mon enfant de faire un travail de recherche plus tard. Je veux que, voilà, les choses soient claires pour lui, les choses soient faciles. En tout cas, de mon côté, je faciliterai tout ce qu'il y a à faire pour qu'il ait une relation, apaisée avec son papa. Par exemple, je veux pas me mettre à diaboliser son père, parce que ce qui s'est passé, c'est entre moi et son père. Et l'enfant, vraiment, ça ne le concerne vraiment pas.
Ouais. Merci beaucoup Kelly pour ce témoignage. Sabrina de Dinechamp, qu'est-ce que ça vous inspire?
Je note effectivement avec beaucoup d'intérêt cette valeur sur les origines, effectivement sur la famille, et c'est important qu'effectivement l'enfant puisse garder un lien avec son père, ou en tout cas qu'il ait cette possibilité de renouer le lien le jour où il en aura besoin ou envie. Et je note aussi tout ce que dit cette maman en disant qu'effectivement elle a donné beaucoup d'informations au père au moment de la séparation, et c'est vrai que c'est la responsabilité du parent qui a cet enfant-là, donc qui a la garde de l'enfant, de pouvoir donner un maximum d'informations. Donc c'est vrai qu'en France, quand on a l'autorité parentale partagée, ça veut dire qu'il faut que les parents décident ensemble du choix des écoles, des activités extrascolaires, tout ce qui concerne la santé et le choix de pratiquer ou non une religion. Mais il y a le plus. Et le plus, c'est tout le quotidien, toute l'information à propos du quotidien qu'on peut donner à l'autre, qui fait que quand l'autre, celui qui n'a pas la garde de l'enfant, récupère l'enfant pendant les vacances ou pour un week-end ou pour la semaine, qu'il puisse effectivement avoir suffisamment d'informations pour qu'il y ait une fluidité entre les deux maisons. Et ça, c'est important.
Et vous accompagnez aussi des couples interculturelle, mm-hmm. issue de cultures différentes. Qu'est-ce qui est particulier dans ces couples-là, notamment par rapport aux valeurs qu'on veut transmettre à l'enfant après une séparation?
Ben c'est une bonne question, parce que c'est vrai que dans les familles interculturelles qui se séparent, qui donc n'habitent plus dans le même pays, il y a toute l'inquiétude des valeurs familiales, des valeurs culturelles. Quand par exemple la maman est africaine et que le papa est français par exemple, et que du coup l'enfant est rentré en Afrique avec la maman, on entend souvent les inquiétudes du papa en disant mais mon enfant est à moitié français, comment est-ce qu'il peut garder des liens avec sa famille française, comment est-ce que je peux lui transmettre des valeurs françaises alors que l'enfant habite si loin.
Alors, j'aimerais aussi vous lire le message de David qui est à Kribi au Cameroun. Il s'est séparé de sa compagne et puis après la séparation a appris qu'elle était enceinte. Alors je vous lis son message. L'enfant arrive, je n'ai aucune autorité sur l'enfant qui aujourd'hui a 2 ans. Mon ex fait tout derrière mon dos, je ne peux pas exercer mon rôle de père. Elle ne veut que le support financier. J'ai décidé d'attendre que l'enfant ait l'âge de comprendre. Ça aussi, ça peut arriver.
Ça peut arriver, et c'est vrai que ce qui est triste dans ces situations-là, c'est que souvent les parents mettent en balance l'argent et les soins aux enfants. Si tu ne me donnes pas d'argent, tu verras pas l'enfant. Ou si tu ne me montres pas l'enfant, je ne te donnerai pas d'argent. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, bien évidemment. Pour répondre à ce papa, je pense qu'il est important qu'il puisse, lui, malgré tout, continuer à garder le lien, envoyer des cartes postales, des cadeaux, quelque chose, de sorte que le jour où l'enfant, effectivement, le recherchera, il puisse lui dire, tu vois, je ne t'ai pas abandonné, j'ai pensé à toi, je t'ai envoyé des cartes postales.
J'ai essayé d'être là.
Les cartes postales sont peut-être jamais arrivées, ou en tout cas ne t'ont jamais été transmises, peut-être, mais moi, j'ai fait mon boulot.
Gérard Nérand, il arrive aussi que la communication soit totalement rompue entre les deux ex-époux, à cause de la colère, avec un vrai silence aussi entre les deux ex-conjoints.
Ah oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de situations où la communication n'existe plus. Comme je le disais tout à l'heure, un quart des pères, quelques années après la séparation, ne voient plus leurs enfants et ils ne communiquent plus, a fortiori avec la mère de ceux-ci. Hein. Donc, il peut y avoir des cas... Les situations post-séparation sont extrêmement diverses, en fait. Hein, c'est leur grande caractéristique. On peut difficilement avoir un discours général dessus parce qu'il y a vraiment des situations très, très diversifiées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, compte tenu des risques que l'on avait à ce que finalement les pères soient plus ou moins désaffiliés des enfants, de plus en plus le principe de coparentalité est devenu une norme. Hein, et en France, c'est particulièrement manifeste. À partir des années 80, la norme de coparentalité s'est affirmée de plus en plus. Mais je crois que ça traverse maintenant un peu tous les pays, c'est-à-dire cette idée que il faut garder le lien de l'enfant à ses deux parents après une séparation. C'est vraiment devenu aujourd'hui l'idée dominante, malgré que dans les situations concrètes, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.
Sabrina de Dinochamp, dans votre livre, vous relatez notamment le cas de deux parents qui ne se parlent plus du tout. La passation, entre guillemets, de leur fils se fait à l'école pour éviter qu'il n'ait à se voir, à se parler. Et ils communiquent en fait par écrit, avec un cahier de liaison où ils écrivent les rendez-vous médicaux de l'enfant ou d'autres choses sur sa scolarité. Alors comment faire dans ces cas-là, quand la communication est totalement rompue?
Alors, c'est vrai que quand les parents se séparent, c'est bien souvent un tsunami pour les enfants. Ce qui permet de mieux vivre cette séparation, c'est quand les parents se parlent, et se parlent au moins à propos des enfants. C'est-à-dire vraiment construire ce lien de coparentalité. Alors, en effet, certains parents refusent de le dialogue parce qu'ils cherchent à se protéger, ils n'ont pas envie d'être blessés, ils n'ont pas envie d'être critiqués, etc. Et ils choisissent de faire la passation des bras à l'école, par exemple. Effectivement, ça leur évite de se parler. C'est pas l'idéal, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Les enfants, ils ont besoin que les parents se parlent. Et si les parents ne se parlent pas, c'est l'enfant qui va parler à la place, c'est-à-dire qu'il va faire le messager entre les deux. Il risque aussi de grandir de façon un petit peu clivée, en se comportant d'une façon chez un parent, d'une autre façon chez l'autre. Il va aussi pouvoir peut-être sortir de sa place d'enfant Pour se mettre au niveau des adultes, protéger sa maman, protéger son papa, ne pas oser raconter combien c'était chouette la semaine dernière quand il était chez son père, de peur de mécontenter de la mère ou de lui faire de la peine. Et donc il sort vraiment de son rôle d'enfant et finalement il se met à porter ce sac à dos qui est trop lourd pour lui, mais qui ne lui appartient pas puisque c'est bien le sac des parents. Et donc c'est vraiment important pour éviter cela que les parents prennent la parole.
Mais comment parvenir à cette communication apaisée? Alors quel conseil vous pouvez donner à ce sujet?
Alors c'est compliqué, c'est sûr que c'est compliqué parce que, ce que je disais tout à l'heure, il faut pouvoir faire la différence entre la relation conjugale et la relation parentale. Dans mon métier de médiateur familial, moi je constate avec émerveillement la capacité des parents qui sont capables de reprendre le dialogue. Alors parfois ils n'arrivent pas à le faire en tête à tête, donc effectivement ils vont voir une tierce personne, mais pour leurs enfants, ils essayent de le faire. Alors après ça, il y a un certain nombre de règles de communication qui peuvent s'appliquer, qui sont basées sur l'écoute, important, de pouvoir écouter la personne jusqu'au bout, de ne pas chercher le malentendu, le sous-entendu ou autre chose que ce qui est dit, pouvoir éviter d'utiliser le « tu » qui est tellement accusateur, tellement culpabilisant. On dit que le « tu » tue la relation. Donc il vaut mieux parler en jeu. Éviter les généralités, tout simplement parce que c'est pas toujours comme ça. Éviter de coller une étiquette sur l'autre, essayer de le regarder avec des yeux différents. Se remémorer de comment est-ce que ça se passait au tout début de notre relation. Donc il y a des petits trucs comme ça qui peuvent aider effectivement à une meilleure communication.
Comment rester parent après une séparation? C'est la question à laquelle on tente de répondre aujourd'hui dans 7 milliards de voisins.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, mais entre nous là, entre les voisins, hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Un site de rencontre pas comme les autres. On ne promet pas d'y trouver le grand amour ni une conquête pour la nuit, mais d'y rencontrer le futur parent de son enfant sans forcément impliquer une relation de couple. Bonjour Frédéric Bianco.
Bonjour.
Vous avez fondé le site coparentalis.com pour aider à rencontrer le futur père ou la future mère de son enfant. Site qui compte déjà 10 000 membres. Comment vous est venue cette idée-là?
Cette idée m'est venue d'un constat assez simple de l'état de la société d'aujourd'hui. Il y a 18 millions de célibataires en France, 3,4 millions de familles monoparentales et 48% des mariages finissent en divorce. Donc, je me suis simplement dit que toutes ces personnes ne rencontreront pas forcément l'amour, mais une grosse partie désirerait avoir des enfants et fonder une famille.
Donc pour vous, il y a un vrai besoin de rencontrer le père ou la mère de son enfant.
Tout à fait. Vous savez, il y a plusieurs catégories de personnes qui peuvent être intéressées. Les couples homosexuels, pour qui le parcours d'être parent, c'est un véritable parcours du combattant. Donc là, sur mon site, ils peuvent rencontrer un homme, une femme, un couple d'hommes ou un couple de femmes ayant le même projet de vie, le même projet parental. Les hétéros célibataires qui ne rencontrent pas l'amour, bien sûr. Les personnes qui sont plutôt pris par le temps, par exemple un homme ou une femme qui ont plutôt consacré leur vie à leur carrière et qui se réveillent à 40 ans avec tout, mais sauf l'essentiel, une famille, qui n'ont pas forcément le temps nécessaire de trouver l'homme ou la femme qui leur correspond le mieux. Voilà. Et puis il y a tout simplement ceux qui veulent garder leur indépendance, leur célibat, et qui ne veulent pas non plus ne pas avoir d'enfants.
Et c'est assez pessimiste en fait comme constat. On est loin de l'idéal du couple qui donne lieu à une famille traditionnel.
Alors, c'est pessimiste, oui ou non, parce qu'ici, on est dans une coparentalité choisie par rapport à une coparentalité subie, par exemple avec le divorce. La coparentalité, ça a toujours existé depuis que le divorce existe.
Mais dans un qui se sépare, qui s'est séparé, il reste néanmoins des liens affectifs qui ont existé.
Oui, tout à fait. Pas forcément bon. Et là, dans notre cas, là, c'est choisi. On peut très bien trouver un ami, quelqu'un qui a le même projet de vie, la même vision de l'avenir, et être en super entente, même mieux peut-être que dans un couple traditionnel. Où il y a des disputes ou le reste. Bien sûr que la construction d'une famille par l'amour, c'est bien sûr l'idéal, mais vous savez, tous ne peuvent pas y accéder. Et d'ailleurs, souvent, les coparents, bien sûr qu'ils ont un feeling, finissent par finalement se mettre ensemble.
Ah, ça peut donner lieu à des relations de couple.
Tout à fait, oui, ça n'empêche pas. Voilà, le premier choix, c'est « je veux devenir parent ». Mais beaucoup de personnes cherchent l'amour au passage, qu'on soit une vraie relation, fonder une famille. bien sûr.
Et alors, quels sont les critères mis en avant pour choisir le père ou la mère de son enfant? Comment on se présente sur ce site de rencontre?
Alors déjà, on peut définir sa vision de ce qu'on veut réellement, le partage, comment on va vivre, est-ce qu'on vit sous le même toit, est-ce qu'on marche comme un couple divorcé, l'implication de chacun dans l'éducation de l'enfant. Voilà, il y a plein de paramètres. C'est comme une rencontre amoureuse, vous savez. Il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait un même projet parental, un même projet de vie.
Et donc, en général, il y a plusieurs rencontres qui s'opèrent entre les deux futurs coparents.
Oui, bien sûr.
Des dates, comme on dit.
Nous, surtout nos recommandations, nos articles, bien sûr, on recommande de prendre son temps. On n'explique pas comment faire un enfant à nos membres, hein, ils savent très bien. Ce n'est pas notre rôle, on ne rentre pas dans la chambre à coucher de nos membres. Mais nous, notre principal objectif, c'est de mettre en relation des hommes et des femmes voulant devenir parents. Aujourd'hui, les sites de rencontres qu'on disait traditionnels avant deviennent de plus en plus des sites de rencontres éphémères. Et je pense que le nouveau type de site de rencontres sérieuses de l'avenir, c'est quand on a un projet sérieux et un objectif, on va dire, réel, faire un enfant.
Alors merci Frédéric Bianco, je rappelle que vous avez fondé le site coparentalis.com, un site qui propose de rencontrer le futur parent de son enfant.
Merci à vous.
Alors Gérard Nérand, que vous inspire ce site de coparents? On en vient là à une idée assez extrême hein, de la coparentalité.
Alors c'est très intéressant parce que ça illustre en quelque sorte en quoi nous sommes passés dans une société qu'on peut qualifier d'hypermoderne. Hein. Ça montre à la fois le poids des médias numériques aujourd'hui, hein, et l'importance que ça a pris dans notre vie personnelle, et puis le fait qu'on a vraiment vécu une mutation en matière de vie privée, de vie familiale extrêmement importante, qui s'est traduite par deux dissociations majeures. La dissociation entre sexualité et procréation, à partir du moment où les moyens modernes de contraception se sont diffusés, on a pu séparer sexualité et procréation, et puis la dissociation entre conjugale et parentale, et qui est évidemment avec la montée des séparations conjugales qui sont aujourd'hui à peu près de 1 sur 2, on a effectivement aussi cette dissociation qui est très présente dans le fonctionnement de notre société. Donc ces nouveaux sites, hein, parce que c'est pas le seul qui donne un tel objectif, ils sont tout à fait révélateurs de l'évolution sociale. Et du fait que ce que disait l'interviewé à l'instant, fonder une famille basée sur l'amour, en fait, ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi ? D'abord parce qu'on attend de plus en plus de l'autre. Hein, l'objectif conjugal aujourd'hui, il a pas perdu de sa force, au contraire, il a augmenté. Hein. C'est un peu la thématique de mon dernier livre, L'amour individualiste. On est dans une logique où
on est plus exigeant.
Il y a une contradiction entre l'affirmation de l'individu et l'affirmation de la volonté de se réaliser personnellement à travers le rapport amoureux à l'autre. Donc on est dans une difficulté particulière dans la société contemporaine. Et c'est de plus en plus difficile, en fait, d'avoir un couple fondé sur l'amour qui dure et d'avoir une famille fondée sur l'amour. D'où, évidemment, ces solutions hein, qui sont très intéressantes à analyser parce qu'elles montrent à quel point, aujourd'hui, on est dans une société de la diversité et de la complexité, compte tenu de ces évolutions qui sont caractéristiques de la deuxième modernité familiale, hein, celle qui a commencé dans les années 70 dans les pays occidentaux.
Merci beaucoup Gérard Nérand et au studio de France Bleu Aix-en-Provence qui ont permis de vous entendre tout au long de cette émission. Merci également à vous, Sabrina de Dinochin, d'avoir partagé vos regards sur cette question de la coparentalité après une séparation. Merci aussi à vos conseils hein, pour nos voisins. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Steven Elsley à la réalisation, Cécile Lavolo en coulisses, Delphine de Dianous pour vous répondre, les voisins. Merci aussi à Léa Delfoli, à Vincent Porat et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, comment changer de regard sur le handicap? Nous recevons deux invités très engagés dans ce combat.